près le roux.
Les apprentis du bien nourri. Bonjour, c'est Jérôme Pernaud dans Les Apprentis du Bien Nourri. Aujourd'hui, c'est côté prof que notre regard se tourne. Pourquoi donc on enseigne? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de transmettre? J'ai toujours été fasciné par cette capacité qu'a l'homme d'échanger son savoir contre rien du tout. Il n'y a pas de commerce possible là-dedans, dans le savoir qu'on donne. Quand on donne quelque chose que l'on sait, on ne le perd pas pour autant. Et on ne peut donc pas parler d'échange monnayable. Si j'aime transmettre, c'est parce que j'ai certainement beaucoup d'admiration pour ceux qui m'ont appris. Je pense à Madame Fleury, cette prof de violoncelle que j'ai eue dans ma petite enfance et qui m'a appris mon instrument pendant une dizaine d'années, à Klaus Heitz, à Xavier Gagnepain, à Philippe Muller au conservatoire, qui m'ont tous donné sans compter. Et c'est certainement grâce à cette générosité que maintenant j'ai envie de faire pareil. C'est ça, les rencontres. C'est évidemment ce qu'il y a de plus déterminant, que ce soit sur le plan artistique ou sur le plan humain. Et c'est pour ça qu'à Châtellerault, une fois que le cours est terminé, il n'y a plus d'étiquette. Il n'y a plus d'étiquette de prof. On se rencontre réellement, profondément, humainement, simplement sans la barrière de la fonction. Rien que par amour. Dans le mot amateur, il y a le mot aimer. Et aujourd'hui, dans les apprentis, on parle de la très belle activité de professeur amateur. C'est jusqu'à 13h40 et c'est sur France Musique. C'est le petit matin au moulin du bien nourri. Je me réveille et avant d'ouvrir l'œil, je me dis « chouette, je suis au moulin ». Le premier réflexe, c'est d'ouvrir la fenêtre, de reprendre contact avec la nature, avec les oiseaux, l'eau de la Vienne qui passe dans le jardin, les arbres, le vent qui siffle, le sol encore tout humide. Et dans quelques minutes, c'est déjà le cours de Gabi. Alors évidemment, le cours, tasse de café à la main, les yeux pas tout à fait ouverts, la voix encore un peu engoncée sous l'oreiller. Gabi est à peu près dans le même état que moi, donc tout va bien. C'est l'heure des gammes, parce que pour les gammes, on n'a pas besoin de trop réfléchir.
Ah, tu viens de Saint-Malo.
Voilà, on fait rentrer en vibration. N'appuie pas sur la corde, fais-la vibrer. Voilà. Ne crée pas de tension particulière. Un bon vibrato bien large. Pas trop excité, mais juste quelque chose de... Et les doigts proches de la corde. Colonne vertébrale, respiration. Présence dans le corps. Respire tranquillement. Lâche bien le visage. Voilà, ça c'est très bien ça. Très bien. Ça c'est super, tu te tiens très bien. Bravo. Attention de ne pas vriller ta colonne vertébrale quand tu vas sur les cordes aiguës. Lâche bien ton bras au talon. Voilà. Écoute bien ton son, c'est toujours beau. Et lâche. Ça, lâche le bras quand tu arrives au talon, tu peux te reposer sur la corde, voilà. Repense à ton pouce. Quand tu arrives au talon, surtout, quand tu arrives au talon, tu le peux remettre en te posant sur les cordes. Vas-y, monte sur tes doigts, voilà. Pas d'effort musculaire, très simple. Vraiment, Voilà. Ça, c'est bien. Voilà, tiens-toi bien. Te laisse pas pousser en arrière par ton violoncelle. Attention, c'est malsain comme position, ça. Hop, t'es tout comme ça. Il faut toujours que le bras soit dans la position la plus simple par rapport à ton squelette, par rapport à ton dos, par rapport à ton épaule. On fait ça dans le vide. Voilà. Non, attention. De pas te retrouver comme ça. Voilà, ça c'est très bien. Finalement, c'est très utile de travailler dans le vide, sans l'archer, de faire le mouvement de l'archer sans l'archer. Déjà, comme ça, tu t'aperçois de la simplicité ou non de ton geste. Et là, il faudrait que tu te rendes compte que ça ne va pas dans le sens des muscles. Que là, les muscles sont contractés pour être comme ça. Oublie que tu joues sur une corde. Repense au geste sans l'archer. Voilà. Voilà. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de jouer plus fort. Ce qui compte, c'est que le violoncelle vibre. Voilà. Ça, c'est parfait. Tiens-toi bien, tiens-toi bien.
Et oui, c'est la base, ces gammes. La gamme, c'est l'heure quotidienne de remise à plat. C'est une espèce de méditation de l'instrumentiste. Bon, là, ça continue. On fait des doubles cordes, on fait des exercices de position, des exercices d'archet. Ce qu'on appelle l'heure de gamme, c'est pas seulement une gamme toute simple. Et en fait, c'est très important de le faire en cours, ça, de le faire avec les élèves au moment du cours, parce que si on le fait pas, évidemment, ils le feront pas tout seuls, même si on leur dit de travailler des gammes. Et finalement, cette expérience-là, qui est toujours renouvelée tous les matins, on peut se dire, tiens, je réapprends le violoncelle, je réapprends, je réinitialise, je me réinitialise. Et après, on passe évidemment au répertoire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le monde intérieur qui se réveille. Les gammes de l'imagination. Une fois qu'on a éveillé l'imagination de l'élève, alors il a envie. Et c'est là qu'on entend qu'il veut dire quelque chose avec son instrument et que des fois, il sait pas faire. Et alors, pour le prof amateur, c'est à ce moment-là que ça devient passionnant parce qu'on ne sait pas non plus et qu'on cherche ensemble, on improvise. On n'a aucune certitude sur ce qui va se passer dans le cours. Quel beau métier, professeur.
Encore. Encore plus large, immense.
Vois le paysage quand tu joues ça. Auquel ça correspond, et sois ce paysage. Tu es cette immensité quand tu joues ça. Tarim, tarim, tariera tiram, taram. C'est pas important le nombre de décibels qui va sortir de ton violoncelle. Ça peut pas être beaucoup plus que ce que tu viens de faire là. Ce qui est important, c'est l'immensité de ton monde intérieur.
Ouais.
Tu n'as pas le droit de partir, de jouer cette musique-là, en ayant un monde intérieur gros comme un noyau d'olive. Du monde sur tes épaules. Un espoir. Attention, sois d'abord prête avec ta main gauche et ensuite tu joues. Si, do, si, do, si. Très lourd. Parlando. Ti. Attention, tirum, c'est important cette note. Ti, ta, tirum. La différence entre l'ornement classique et l'ornement romantique, c'est que l'ornement classique, il ne faut surtout pas l'appuyer. On n'est que sur les temps forts.
entre les temps forts, il y a des ornements qu'on n'appuie pas, parce que c'est juste pour enjoliver légèrement. Mmh. Alors que l'ornement romantique, du genre « tero », cette petite note-là, elle doit avoir plus de poids que la note réelle. Elle est là pour en rajouter. Mmh. Et ton si n'est pas assez une promesse. C'est la promesse de tout le concerto là qui arrive. Non, ce si. Il va pas, il est banal comme tu le joues. Tu vis, t'as un vibrato banal. Non, t'es. Tu ne le dis pas assez. Il ne représente pas assez un sens. Regarde pas la partie. Si, do, ré, mi, fa, sur ces quatre notes, où est le temps?
Je l'aurai.
Ouais. Chante-le.
Ta yam, ta di da, pa di ya da da.
Ok, joue-moi ça. Oui. Super, ta da.
Puis il faut transmettre des outils de connaissance. Il faut donner le goût, par exemple, de l'étude de l'harmonie, parce que l'harmonie, c'est ce qui va permettre à l'élève de connaître profondément le langage musical. Il n'y a pas que l'harmonie, bien sûr, mais c'est ce qu'on va voir là, dans la suite du cours. Plus l'élève aura de connaissances du langage, plus il aura les moyens de confirmer ce qu'il ressent, de confirmer son instinct. Le but, c'est de sentir d'abord et de savoir qu'on ne s'est pas trompé ensuite. Il faut vraiment que tu te laisses guider par l'harmonie. Écoute l'harmonie, c'est ça qui va te donner la grandeur, le côté un peu peplum. Même. Il y a un côté grandiloquent hein, dans ces accords. Ouais. Non, n'écrase pas le son, t'entendra dans l'autre sens.
Ouais, mais j'arrive hein? pas justement. Hein.
Non, mais enfin, tu vois, ne verrouille pas comme ça.
Ouais.
Ouvre-toi, comme une danseuse qui se met comme ça, les bras ronds, là, devant, avec les mains devant elle. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Cette position ouverte là. Mm. Imagine que le manche de ton violoncelle, la touche, là jusqu'au chevalet, c'est ta colonne vertébrale.
Mm.
Fais tout vibrer souplement.
Mm.
N'écrase pas tes vertèbres comme ça.
Mm.
Hein? Vas-y, c'est la colonne vertébrale de ton violoncelle. C'est magnifique ça. Lâche tout. Superbe ici, magnifique ça.
pas plus lent. De toute façon qu'on n'entende pas tes poussées plus que les tirées. De toute façon, ça se détimbre.
Ouais.
Au contraire, il faut que tu arrives à jouer piano timbré. Ça, c'est très important. Un chanteur, par exemple, qui va chanter piano timbré, c'est ce qu'il y a de plus sublime. Hein.
Ouais.
Hein, c'est vraiment ce son-là, et non pas ça.
Ouais.
Surtout pas ça.
Et ben voilà, encore un bon coup de fourchette. Mais bon, le moulin du bien nourri, c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. Et ces moments, bah, ils sont évidemment très importants. C'est des vrais moments de partage. Et ce que je disais tout à l'heure, on n'est plus professeur à ce moment-là. On est dans une relation d'être humain à être humain. Il n'y a pas de case, on n'est pas dans une case, on n'est pas dans une étiquette. On n'entre pas dans un schéma préétabli. Alors, du coup, les discussions fusent et elles sont hors cadre habituel et elles permettent de tout remettre en question, d'apporter la contradiction à tout ce qu'on prend pour vérité d'habitude. Ça permet de tordre le cou aux idées reçues pour nettoyer son regard. Et c'est ça aussi, apprendre à être un artiste. En cours, évidemment, c'est tout différent. Il y a des règles imposées par la situation. C'est ce qu'on va entendre là maintenant avec Jordan dans ce premier cours. Jordan, il est là à Châtellerault pour la première fois. On ne se connaît pas. Et on entre dans le vif de la relation avec le concerto de Shostakovich. Parce que je suis sûr que ça sonne pas du tout comme tu voudrais.
Je trouve que c'est un peu. Je le vois un petit peu
tu
plus.
Tu peux me laisser faire le cours là?
Non. Oui, je réponds à votre question en fait.
Non, non, c'était pas une question. Je suis sûr que ça sonne pas comme tu voudrais. C'est-à-dire. Ça sonne léger. Et vraisemblablement, vu ce que tu as l'air de donner là-dedans, et ta compréhension générale de la musique, je pense pas que tu veuilles en faire quelque chose de léger. Cherche vraiment à comment tu le chantes à l'intérieur de toi. Vas-y, joue, en chantant. Joue. Et pendant ce temps, tu chantes dans ta tête beaucoup. Voilà. Ok. Faut pas que ça soit une question de tempo, hein.
Ouais, là, j'étais, du coup.
Allez, dans ton tempo, mais fais attention à comment tu le chantes. Et comment ça sort par rapport à ce que tu chantes.
En fait, je pensais au tempo, mais pas vraiment au son, en fait. Je fais pas trop d'excuses, mais...
C'est pas le pa-pa-pa-pa qui va te donner le tempo.
Ouais.
C'est le pa-pa-pam,
pa-pa-pam.
Alors, tu pars comme ça, mais tu le chantes... intensément.
Ouais.
attention, il y a beaucoup trop encore d'efforts. Tout ce qui est à partir des bras. Bras, cou, visage, nuque, même les sourcils, ça. Il y a trop d'efforts dans cette région-là.
Après, il faut que j'arrive à garder l'intensité du discours et la dynamique tout en me détendant. En fait.
Si on se détend, on a l'impression de jouer comme un légume.
Voilà,
mais en fait, c'est parce que tu ne places pas l'intensité où il faut. Il ne s'agit pas d'enlever de l'intensité, il s'agit de la placer ailleurs.
D'accord. Mais en même temps,
Attends, tu dis d'accord, mais est-ce que tu vois où je veux dire ?
Où je veux dire ?
Je veux dire, l'intensité, il ne faut pas la placer dans le corps, il faut la placer ailleurs. Où ?
Dans le son, dans le...
Non.
Dans le... À l'intérieur de soi, en fait. Dans le champ intérieur.
Dans le champ intérieur.
Profond.
Voilà, dans le champ intérieur. Oui. Dans la manière dont tu chantes. Tam, pam, pam, pam. T'es comme ça, ton champ intérieur, il doit être comme ça.
D'accord.
Ton corps, lui, il a pas... C'est pas ton corps qui chante.
Oui.
Ton corps, il exécute si tu laisses faire. Pour laisser son corps libre, il faut être présent dans son corps. Il faut avoir conscience de son corps. Dès que t'as conscience de tout ton corps, hop, instinctivement, tu enlèves les tensions. Je le vois bien, d'ailleurs, au moment où je te le dis, paf, ton corps se remet en place.
Mais je joue pas, là, donc... Hein?
Je te parle d'un principe de base.
Ouais.
Pas quand on joue ou quand on joue pas, peu importe, tout le temps dans la vie. Si t'es présent dans ton corps, tout d'un coup, tu vas avoir conscience des tensions inutiles et tu vas les relâcher. Ça marche pour tout le monde et dans toutes les situations. On ne doit placer aucune volonté dans le corps. C'est le champ intérieur qui va agir sur le corps. C'est pour ça que le corps n'est pas au service de... Le corps, il est, c'est tout. Le corps, c'est le présent. Quand tu es dans ton corps, tu es dans le présent.
Et dans le champ intérieur, on peut être dans le présent aussi.
C'est pas tout à fait pareil. Le champ intérieur, c'est une extrapolation. C'est comme quand tu penses. Pendant que tu parles, tu penses à ce que tu dis. La phrase que tu vas dire, elle commence d'abord dans ta tête.
Mm.
D'accord ? Cette phrase-là qui commence dans ta tête, pourquoi tu l'as dit ? Parce que tu as envie de dire quelque chose. Si tu as envie de dire quelque chose, c'est parce que tu as un sentiment. Pourquoi tu as un sentiment ? Parce que tu as des sensations. Tu reçois des choses avec tes sens. D'accord ?
Mm.
On recommence tout depuis le début, dans l'ordre inverse. Tu as des sensations grâce à tes sens. Ces sensations te donnent un sentiment. Le fait d'avoir un sentiment te donne envie de l'exprimer. Le fait d'avoir envie de l'exprimer te donne l'envie de formuler. Le fait de formuler dans la pensée fait que tu vas le dire. Mais tu ne commandes pas à ton larynx de se mettre d'une certaine manière, ni à tes lèvres ou à ta langue de se mettre d'une certaine manière pour dire ce que tu as à dire. Tu n'agis pas sur le corps pour dire. La seule manière de parler correctement, c'est de penser à ce qu'on dit. C'est d'être dans le sens de ce qu'on dit, dans la question du sens. Tu m'écoutes pas ?
Si, non, mais j'ai compris. Mais non, mais j'écoute.
J'adore cette réponse.
Non, mais je t'écoute pas
puisque j'ai compris. Donc tu as, en quelques mots, tu dis, bon, j'ai compris. Et après, t'écoutes plus.
En fait,
t'écoutes pas vraiment. Mais attends, il s'agit exactement de la même chose que ce dont je te parle.
Oui.
Tu fermes les vannes parce que t'as compris. T'écoutes plus. T'es plus attentif. Sans que ça devienne agaçant pour le public. Merci, on a compris, d'accord. Tu vois bien déjà. Oui, bon, bah, j'ai compris. Tu ne veux pas écouter vraiment ce que je te fais. L'écoute, c'est quelque chose de passif. Il ne faut pas être actif pendant l'écoute. Il ne faut pas se dire « Ah oui, il veut dire ça !» Surtout pas. Si je te montre un exemple, tu dis « Ah bah oui, il fait comme ça !» Parce que sinon, tu vas tout de suite reprendre l'extérieur, ce que tu crois avoir compris, sans comprendre, sans comprendre vraiment, sans comprendre intérieurement, physiquement. Tu vois ce que je veux dire, mais tu ne comprends pas ce que je veux dire. Parce que tu n'écoutes pas vraiment. Tu écoutes sans écouter. Tu écoutes en te disant « Ah, il me dit ça. Ah, il me dit ça et moi, je pense ça. Ah, je suis d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Ah, je... » Non. Écoute, simplement. Reçois les choses. Mets-toi en mode récepteur. Ensuite, t'essayes. Avec ce que tu auras reçu, de manière passive. Après, tu fais ton marché. Une fois que tu auras vraiment compris, c'est-à-dire que tu auras fait l'expérience de la chose, tu pourras te dire, eh ben moi j'ai envie de ça, moi j'ai envie de ça et j'ai pas envie de ça. C'est, bien sûr, c'est pas la question. Mais au moment du cours, tu es là pour recevoir quelque chose. Mais pas pour mettre les mots que je dis dans une case de ton cerveau. Ça sert à rien, ça. Tu vois ce que je veux dire, pour le moment. C'est très important de savoir écouter pour apprendre. Apprendre, comprendre, prendere.
Prendere, prendre, prendre l'air et ne pas chercher physiquement, je disais tout à l'heure dans le cours, pas chercher matériellement, mais aller puiser au fond de soi, au fond de son monde intérieur, les solutions musicales, aller puiser aussi, bien sûr, dans la nature, dans la beauté de ce qui nous entoure, dans la beauté de notre environnement. Quand on est prof et qu'on joue, l'élève a tendance à imiter le professeur. Et c'est quelque chose à la fois d'utile, d'ailleurs tous les apprentis dans tous les métiers du monde imitent leur maître pour arriver à connaître. Mais ils doivent, une fois qu'ils ont imité, ils doivent comprendre, ils doivent prendre la chose à bras-le-corps et en faire réellement l'expérience eux-mêmes. Chez le prof amateur que je suis, qui plus est, il y a le plaisir d'expliquer ça, de raconter tout ce processus, ce trajet, ce voyage à travers l'homme, que font les notes, depuis la partition jusqu'à l'instrument. Ces notes qui nous traversent. Et pour ça, pour comprendre cette explication, évidemment, il faut arriver à recevoir de manière passive, sans juger, sans comparer. C'est ce que je disais à Jordan tout à l'heure. L'apprentissage est une espèce de lutte passive. Et pour recevoir les choses calmement, eh ben, bien sûr, chez Minou, chez Hervé, ce moulin du bien nourri, c'est le cadre absolument idéal. Ici, on échappe totalement au milieu habituel. On est dans une espèce d'îlot hors du temps, hors du monde. Et depuis 10 ans que je viens ici, j'éprouve réellement cette liberté. À chaque fois, cette espèce de lâcher prise de la vie quotidienne qui fait que quand on vient ici, on vient parce que on aime, on vient en amateur, on respire, on découvre les plus jeunes, on fait découvrir la musique rien que pour le plaisir. Puis en plus, on est chouchoutés comme des enfants.
Super, bravo Léo, dis donc, t'as fait des progrès depuis la dernière fois. Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu d'ailleurs. Hein? Il faut que tu fasses un petit peu plus attention à ta position, tu sais, quand tu tiens ton archet, là, t'as le petit doigt qui est en l'air, comme si on dirait un Anglais qui boit une tasse de thé. Alors, il faut bien que tu sentes le contact des doigts sur ta baguette. C'est comme s'il y avait un petit point de colle ici,
sur le bout de chaque doigt. Et là, hop, tu sens que c'est en contact. Tu vois, t'as pas besoin de serrer. C'est comme si t'avais un petit oiseau dans les mains. Tu ferais pas comme ça. Tu te prends juste ce qu'il faut pour le tenir, mais pas le serrer pour pas l'étrangler. Hein.
D'accord.
Voilà. Et là, tu lâches bien ton bras ici. Voilà, et tu tires.
Oh, c'est beau. C'est super. Voilà, lâche bien ton bras quand tu joues. Lâche ton bras sur la corde. C'est un si bémol ou un si bémol ?
C'est un si normal, il n'y a pas de dièse.
Il n'y a pas de dièse, ni de bémol, ni de bémol, ni rien. Donc c'est un si bémol. Quand il n'y a rien de marqué, c'est un si normal. Alors, le si, tu peux me le chanter ? Tiens.
Si.
Très bien, joue-le moi maintenant. Rechante-le.
Si.
Joue le même. C'est le même ? Non ? Alors corrige-le. C'est le même ? Oui ! Gagné.
Cousin le moustique, je veux plus que tu me piques.
Ok, alors joue-le maintenant. Et pendant ce temps, tu le chantes. Dans ta tête. Non, 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 attention là. Hey, tu crois que je vais pas l'entendre peut-être? Lâche bien ton bras pendant que tu joues. Voilà. Très bien. C'est bon ça? Ah. Très bien, dis donc, tu corriges bien et t'entends bien. C'est super, t'as une très bonne oreille. Bon alors maintenant, on va essayer de faire que ce que tu sors du violoncelle, ça correspond aux paroles. Hein? Parce que là, tu joues un peu comme si c'était... On dirait un petit enfant. Quel âge t'as ?
8
ans. Là, ce que tu joues, on dirait que c'est un petit gamin de 8 ans qui joue ça. Qu'est-ce que tu lui dis au moustique ? Tu lui dis, je veux plus que tu me piques.
Oui, faut lui dire gentiment pour qu'il arrête.
Ah, pas bête. Et alors après, qu'est-ce que tu lui dis ?
Quoi, sois gentil, petit moustique, puis que dans le prêt.
Ah, d'accord. Donc, tu essaies de le prendre plutôt par les sentiments, en fait. Mmh. Alors, dis-lui gentiment, vas-y.
Cousin le moustique, je veux plus que tu me piques.
Ok. Alors, juste cette phrase-là, au violoncelle, tu lui dis très gentiment. Gentiment. Ok, très bien. Maintenant, dis-lui méchamment, là. Maintenant, tu le sommes d'arrêter de te piquer, hein. Vas-y.
Cousin le moustique, je veux plus que tu me piques.
Voilà. Et maintenant, tu me le joues au violoncelle comme ça aussi. On va faire une des choses les plus importantes en musique. Le contraste. D'abord, t'es fâché, et ensuite, t'essayes de l'amadouer. D'accord ? Donc, tu me fais les deux phrases. La première, menaçante. La deuxième, en train de pleurer. D'accord ? Ouais, bravo ! Super !
Ben voilà une bien belle nuance qui arrive naturellement, comme ça, sans qu'on ait eu besoin de parler de forte ou de piano. Ça, c'est formidable. C'est le sens de ce qu'il raconte qui a créé la nuance. C'était Léonard. Léonard, c'est le petit-fils de la maison, le petit-fils de Minouche, qui est né là, qui est né dans les stages. Tout ça, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces petits ? Est-ce qu'ils vont devenir professionnels ? Est-ce qu'ils vont devenir amateurs ? Peu importe, en réalité. Le plus important, c'est apprendre à s'exprimer, apprendre à exprimer ce qui ne s'exprime pas avec notre langage ordinaire. C'est ça qui est important d'apporter à des plus jeunes. Quel que soit leur devenir en réalité, quelle que soit leur occupation principale, s'ils ont été dans leur vie, dans leur jeunesse, ou n'importe quand d'ailleurs dans la vie, pas forcément enfant, s'ils ont été en contact direct avec l'art, avec une œuvre d'art, avec ce qu'ont raconté les plus grands hommes, les plus grands artistes, les hommes les plus remarquables.
Alors, il y a une chance que notre monde ressemble à quelque chose. Il y a une chance que ces individus gardent toute leur vie durant la conscience de ce qu'est l'humanité, la conscience de l'être, la conscience de l'autre. Et le professeur, amateur ou non, ne compte pas l'énergie qu'il dépense, ça c'est sûr. Est-ce que vous vous représentez, par exemple, aujourd'hui même, puisqu'on est mercredi, c'est le jour où les conservatoires battent son plein, est-ce que vous vous représentez le nombre de personnes qui déploient en ce moment même toute leur énergie, sans compter, pour quelque chose d'aussi inutile, en fin de compte, que la musique ? Inutile sur le plan pratique, bien sûr. Il donne, il se donne, il s'adonne à l'enseignement, à cette illumination pour nos petits. Et ceux qui ne peuvent pas comprendre cela, eh ben, ils repartiront sans avoir eu cette lumière. Les autres resteront à la lumière de la beauté. De la générosité, comme on reste sous le soleil. Maintenant, à Châtellerault, eh ben, c'est le moment de partir. C'est l'heure de s'échapper de notre échappatoire. On quitte toujours avec un petit pincement notre moulin, le dimanche soir, la gare, le train, la nuit, la capitale, le petit cafard du dimanche soir. Chacun s'en retourne dans sa vie, les enfants plus assoiffés que jamais, devenant de véritables élèves professionnels, et le professeur, lui, de plus en plus amateur. C'est Jean-Pierre Collard, notre metteur en onde, qui a réalisé cette émission, avec à la technique Bernard Legac, Yann Fressy, Alexandre Martin, Célia Dufour et Georges Sautour. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter par email à l'adresse lesapprentis@radiofrance.com. Vous pouvez aussi venir voir quelques photos du moulin sur le blog du Moulin du Bien Nourri. Vous trouverez un lien dans la page de l'émission sur francemusique.com. Et puis, vous pouvez nous écouter toute la semaine durant, si ça vous chante, sur francemusique.com, la rubrique « Les apprentis du bien nourri ». Merci, grand merci à Minouche et à Hervé pour leur accueil et à notre pianiste, la bien-aimée Karine Cello. Nous retrouvons maintenant Dominique Boutel et nous donnons rendez-vous mercredi prochain à 13h sur France Musique pour un nouvel atelier des apprentis du bien nourri. D'ici là, amusez-vous bien.